In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello, c'est Laetitia.
Salut, c'est Lucille.
Depuis plusieurs semaines, il y a un véritable vent de transphobie qui souffle en France. Tout ça à cause d'un livre, dont on ne mentionnera ni le nom ni les autrices pour ne pas leur faire de publicité gratuite, mais aussi à cause des médias qui leur donnent la parole, ou encore à cause des sénateurs Les Républicains qui veulent interdire les transitions de genre chez les mineurs. Tout ça n'est pas sans conséquences. Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur X, mais aussi sur Instagram et sur TikTok, les personnes trans sont harcelées, insultées et menacées, sans que les plateformes ne réagissent. C'est une situation qui est totalement intolérable.
On rappelle en effet que la transphobie n'est pas une opinion, c'est une discrimination qui est punie de sanctions légales. Mais ça ne suffit évidemment pas à arrêter les transphobes. Pour faire le point sur cette situation, on accueille cette semaine Claude Emmanuel Gagemolle, mannequin, actrice, DJ et militante. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Claude Emmanuel.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, tu as fait plusieurs publications, aussi bien dans ton feed qu'en story, sur le rapport des Républicains, sur les pétitions qui sont en cours en ce moment pour essayer de lutter contre ça. Donc ce rapport des Républicains, c'est un rapport qui veut interdire les transitions de genre chez les mineurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rapport que tu qualifies toi-même d'infanticide ?
Par où commencer ? Déjà, c'est un rapport qui fait plus de 300 pages, qui est répertorié en différentes parties. Alors j'avoue, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu une centaine de pages pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr, en fait, c'est un rapport fait sans les personnes en parcours de transition ou alors sans personnes tout court qui sont concernées par le sujet, mais des spécialistes qui se sont autoproclamés spécialistes de ces questions liées aux transitude, transidentité, personnes trans, eux qui, comme ils peuvent l'appeler, le syndrome de Benjamin quand c'était psychiatrisé. Et donc, du coup, eux, ils estiment que il y a vraiment une mouvance dans les milieux trans et que ça vient créer une forme de trend qui empêcherait les enfants de se développer correctement. Et pour faire partie d'un groupe, le lobby LGBT les obligerait en quelque sorte, par la manipulation des réseaux sociaux, à faire des transitions de genre, en fait. Donc, pour eux, c'est perçu comme vraiment un grand remplacement, pour le dire comme il faut, autant que leurs arguments pour le racisme et compagnie, parce que bien sûr, ça concerne que le bord politique de droite et d'extrême droite, où l'ordre social et la famille sont des axes vraiment fondamentaux de leur politique. On peut parler par exemple de la biopolitique, avec le fait que il faut une mère, un père, pour assurer une pérennité avec des enfants, ainsi de suite, mais que la structure familiale, c'est la base du coup du capitalisme et de l'impérialisme, et qu'il faut que tout le monde porte son rôle. Le rôle de la mère, le rôle du père, hiérarchisé avec ce que ça correspond. Et ce rapport-là, il insiste sur le fait que les premières victimes des personnes trans, ce sont les enfants. Voilà. Donc, comment ils l'ont mis en avant? Ils l'ont mis en avant pour créer une espèce de panique morale. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets en ce moment politiques qui sont importants. Le pays va extrêmement mal. Il y a vraiment des batailles de classe qui sont en cours entre vraiment les politiques riches, extrêmement riches, et les politiques extrêmement pauvres. Vraiment, il y a une désunion entre les genres binaires, c'est-à-dire la classe femme et la classe homme. Il y a une autre guerre qui se passe, donc c'est vraiment l'extrême droite contre l'extrême gauche. Ceux qui sont au milieu, ils sont de droite, disons-le. Les problèmes raciaux aussi, donc vraiment c'est les bourgeois parasites contre les personnes migrantes et compagnie. Vraiment, il n'y a pas de cession, il n'y a pas de coordination qui peut se créer. Et parmi ces sujets-là, forcément, il faut trouver une espèce d'étendard pour rallier tout le monde. Donc comment on rallie tout le monde autour de sujets qui peuvent attirer l'attention? Ben, ils touchent justement à la famille. Donc, les enfants, c'est censé être considéré comme des personnes qui sont pas aptes à penser par eux-mêmes, à ne pas être intelligents parce qu'ils sont dans un apprentissage et autres. Plein d'études ont montré que les enfants, en fait, ils ont pas besoin d'aller à l'école. Il y a une forme d'apprentissage qui se fait seule. Il y a des recherches scientifiques qui ont été faites, bien que les nouveaux-nés ne savent pas manger, marcher, ainsi de suite, de façon innée. Leur cerveau réfléchit de telle manière à pouvoir comprendre différemment plein de syllabes différentes. Le cerveau de l'enfant arrive à le faire. Donc, il y a vraiment un truc d'apprentissage qui se fait chez l'enfant qui est un peu de l'ordre de l'inné, que les adultes, parce que ça encore un mépris de classe entre les personnes qui se considèrent comme adultes et les enfants, de devoir imposer quelque chose sur eux. Donc forcément, le sujet des transidentités, c'est celui qui est mis en avant, bien qu'on pourrait se poser des questions sur ceux qui sont liés à la pédocriminalité, à l'inceste par exemple. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on traite actuellement dans l'actualité. Ce qu'on traite, c'est vraiment les questions de modification liées au parcours de transition. Donc, en plus, des choses qui sont fausses. On a bien prouvé par A plus B que tout ce qui a marqué dans ce rapport, c'était des inepties. Tout est construit sur du faux. Même les argumentaires utilisés dans le bouquin des deux TERF, qui sont en train de faire tous les plateaux de télévision de droite représentés par Bolloré, sont remplis de désinformation. Leur angle d'attaque, c'était la Suède, pour parler de protection d'enfants. La Suède, ces deux dernières semaines, vient de passer deux lois. La loi qui autorise les personnes trans à faire un changement d'état civil libre et gratuit. Et deuxièmement, c'est justement d'interdire, je crois, les thérapies de conversion sur toutes les personnes en rapport avec des parcours de transition. Et du coup, ça vient faire une cession, mais comme elles ont l'apanage de l'extrême droite, elles se plaçaient comme des féministes de gauche, mais avec un discours réactionnaire de droite, sauf que actuellement, on peut que remarquer que non seulement l'endroit où elles sont publiées, chez qui elles vont pour pouvoir présenter leur bouquin, et finalement l'angle d'attaque qui est utilisé, c'est même plus la droite, c'est l'extrême droite vraiment conservateur et réactionnaire que sont presque les partis nazistes, en fait. Voilà.
Oui, il y a des arguments qui m'ont beaucoup choquée dans tous les discours qui sont faits en ce moment pour vouloir interdire les transitions chez les enfants. Ce sont les mêmes arguments que ceux qu'on retrouvait à l'époque pour le mariage pour tous.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on dit, il y a 15 ans de ça, on disait, ah mais non, si deux hommes se marient, si deux femmes se marient, après, tous les enfants vont être gays parce qu'ils vont avoir des modèles, ils vont se dire, c'est ça que je veux être plus tard. Là, on est plus de 13 ans après le mariage pour tous et franchement, à part le fait que les enfants ont moins peur de faire leur coming out, j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus qui se disent « Waouh, trop bien, je vais être gay ».
Non.
Et en fait, les transitions chez les enfants, c'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois. On en parle forcément plus maintenant parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que les enfants ont moins peur, parce que les parents sont mieux informés aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce terme de panique morale qui illustre ça vraiment très bien. Les gens ont l'impression que c'est omniprésent, alors que c'est juste la seule tendance qu'il y a, c'est qu'on en parle.
Oui. Et aussi, en fait, il y a une vraie session intergénérationnelle. C'est-à-dire que déjà, il y avait une session pour les personnes qui sont des millennials ou de la génération Z. Il y a une vraie session avec l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire que la communication entre les parents et les enfants passe vraiment beaucoup moins, surtout sur ce qui concerne les actualités. Les parents ont assimilé le fait que regarder les informations à la télévision, c'était avoir une vérité stricte sur ce qui se passe dans le monde. Là où ceux qui ont accès à Internet et qui cherchent peuvent avoir accès à de meilleures informations ou des informations qui sont plus précises. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Et du coup, comme il y a ces nouveaux appareils comme les smartphones et compagnie qui sont rentrés dans notre vie, les parents, ils ont moins de maîtrise sur ce que font les jeunes. Sauf que ben, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient des choses, mais ça fait partie des expériences de la vie, dont font partie les réseaux sociaux où ils discutent entre eux, font communauté aussi de façon URL et IRL. Et c'est là qu'il y a une vraie, je dirais, session de communication. Les enfants, les personnes qui ne sont pas considérées comme ayant plus de 18 ans ou de 21 ans ont accès à ce matériel-là, mais surtout, ils ont accès à une forme de vérité que leurs parents ne leur donnent pas accès ou qu'ils sont complètement désinformés de la situation, de comment ça se passe. Il n'y a pas plus de personnes trans, c'est juste qu'en fait, la plupart des personnes trans, elles ne transitionnaient pas à l'époque parce que tout simplement, il n'y avait ni démonstration. Tant qu'on ne montre pas que c'est possible, il n'y a pas de possibilité que ça se produise. Ou alors, si ça se produit, c'est toujours dans une forme de disqualification. Aujourd'hui, on a l'impression que comme il y a beaucoup de visibilité, c'est plus accepté. Et puis surtout, on pense que ça touche que des personnes qui sont plutôt mineures, alors que vraiment, on retrouve dans toute la jauge d'âge des personnes qui sont en train de transitionner à de différentes manières. Surtout, la population qui est la plus jeune a une approche des transitions qui est encore plus déconstruite que les personnes qui ont juste transitionné il y a 10 ans en arrière, par exemple, comme moi, où on est des personnes qui finalement ont été un peu formatées et où on est très binaire dans notre façon de penser ces questions qui sont liées à l'identité, au genre, au fait de passer d'une classe, de la classe femme à la classe homme ou inversement, ou de rester dans cet entre-deux avec, du coup, la non-binarité, les personnes qui sont fluides et compagnie, de comprendre qu'en fait, derrière tout ça, avant tout, il y a un enjeu où on nous ment en permanence et le principe, c'est de pouvoir retrouver et affirmer une certaine forme de liberté. D'où le fait de déconstruire, tout simplement, ce qu'on nous a appris depuis la naissance, les constructions sociales. C'est-à-dire que, vraiment, cette notion d'homme et de femme très binaire, c'est une construction sociale pour pouvoir assurer vraiment un agenda particulier qui est l'hétérosexualité, qui est les personnes dyadiques. On se rend bien compte que quand on est minorisé dans une société actuelle qui est plutôt patriarcale, impérialiste et capitaliste, les choses font qu'elles sont moins adaptées aux gens. Et je pense que les personnes qui s'en rendent le plus compte et qui en parlent le plus et qui pourtant on ne fait rien du tout, c'est les personnes qui sont considérées comme invalides socialement. Elles n'ont pas accès au transport, elles n'ont pas accès à des espaces de logement comme tout le monde. Enfin, tout est d'une difficulté extrême et pourtant, ça serait simple de pouvoir y penser, mais rien n'est fait pour être adapté à tout le monde en fait. Voilà. Pour les questions de transitude, c'est la même chose. Déjà, il y a le nombre. Les personnes trans représentent dans le monde moins de 0,3% de la population mondiale. C'est rien du tout. Comment on fait pour réaffirmer une certaine forme d'humanité, de se faire reconnaître, de venir chercher des droits et des libertés qui concernent tout un chacun quand on représente que 0,3% de la population. Les statistiques ne changent pas, elle est constante, on n'est pas à 10% ou 15% de la population qui est en train de transitionner. Ça ne concerne pas tout le monde. En sachant que les statistiques montrent aussi que environ des personnes qui sont considérées comme rentrant dans les codes et les standards normatifs, il n'y a que 7% des gens qui connaissent de près ou de loin une personne trans. Cette panique morale, du coup, n'a pas lieu d'être. Je ne comprends pas pourquoi c'est le premier accès que l'extrême droite utilise pour pouvoir mépriser une minorité qui est déjà très méprisée. Surtout en parlant des enfants, parce que les enfants, ben, en fait, les enfants, ils manifestent pas. Les enfants, ils ont besoin de l'autorité parentale pour pouvoir faire quoi que ce soit ou autre chose. Franchement, c'était la meilleure cible à attaquer. Bien sûr, ça commence par les enfants, puis après, on va aller sur la tranche d'âge des 25 ans, puis après, on va interdire complètement les transitions. Mais ne croyez pas que ça a un lien juste avec les personnes trans, c'est structurel. Si ça parle de transition, si ça parle de racisme, si ça parle de féminisme, les trois sont liés, en fait. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, c'est pas à l'image de ce que le patriarcat peut manipuler. Il y a une forme de liberté, il y a une forme de réaffirmation de nos identités, des limites aussi qu'on est prêt à faire pour pouvoir comprendre qui on est et que eux se masquent les yeux comme avec cette fameuse réplique « je ne vois pas les couleurs ». Par exemple, lors du racisme, c'est gommer le problème et pas y faire face. C'est ne pas assumer qu'il y a eu le colonialisme derrière et compagnie. Pour les personnes transidentitaires, c'est la même chose. On gomme, en fait, l'historicité. On gomme le fait que les personnes trans, elles existent, en fait, depuis la nuit des temps, qu'il y a plein de traces historiques de personnes en parcours de transition et qu'en fait, comme l'évolution l'a fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on n'utilisait pas la voiture, mais on n'utilisait pas la voiture. Aujourd'hui, on a accès à des traitements hormonaux, on a accès à, à de la chirurgie esthétique. Pourquoi ne pas les utiliser, en fait? Tout simplement. Voilà. Pareil, sur cette panique morale, les statistiques, enfin, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de recherches qui sont faites sur les 30 dernières années qui montrent bien qu'il y a 1% des personnes trans qui détransitionnent. Pourtant, sur les plateaux d'extrême droite ou quand c'est abordé dans des sujets qui sont liés à l'extrême droite ou chez les TERF, les premières personnes qu'on entend parler, c'est ces fameux 1%. À savoir que dans ces fameux 1%, si souvent les personnes elles transitionnent, c'est parce qu'il n'y a rien qui est adapté pour pouvoir transitionner dans le meilleur des mondes.
Parce qu'elles subissent beaucoup de harcèlement aussi, parce qu'elles subissent des pressions familiales, salariales.
Exactement. Et qu'il y a une mauvaise prise en charge au niveau médical, psychologique, psychiatrique.
Exactement. Toutes ces oppressions, en fait, qui nous tombent dessus, qui viennent mettre des bâtons dans les roues dans les parcours de transition, juste à être soi-même, ben, ces personnes-là font marche arrière pour pouvoir essayer de retrouver une stabilité qu'on perd en début de transition ou en plein milieu de parcours de transition. En sachant que dans ces personnes, dans ces 1%, il y a plus de 30 à 40% qui finalement finissent par retransitionner. Donc, c'est des chiffres qu'il faut prendre en compte personnellement, mais aussi communautairement.
Si on est à 1% de 0,3%, je suis nulle en maths, hein, personnellement, mais je sais que c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
Non, c'est rien
du
tout.
Ça concerne une poignée de personnes, alors que l'argument qu'on entend beaucoup sur les plateaux télé, c'est il y a des centaines de parents qui nous contactent parce que leurs enfants veulent prendre des bloqueurs de puberté. C'est faux.
C'est complètement faux.
C'est totalement
faux. Et quand bien même, si l'enfant voudrait prendre des bloqueurs de puberté, il n'y a rien qui est irréversible.
Et surtout, c'est des choses qui sont utilisées depuis des dizaines d'années.
Depuis des dizaines d'années ?
Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, j'avais une camarade de classe qui prenait des bloqueurs de puberté parce qu'en fait, elle a sa puberté qui arrivait beaucoup trop tôt. Ça mettait sa croissance et sa santé en danger. Et aujourd'hui, elle se porte très bien. Et pourtant, elle a commencé à prendre des bloqueurs de puberté quand elle avait 11 ans. Elle en a pris jusqu'à ses 18 ans.
Non, puis on donne aussi la pilule à des gamines qui ont 11, 12, 13 ans.
C'est ça.
Et personne ne se pose la question des conséquences que ça peut avoir sur la santé ou sur le long terme.
Exactement. En sachant d'autant plus que la médicalisation autour des traitements hormonaux, ils n'ont pas été inventés par les personnes trans. C'est tout le temps des médicaments qui sont utilisés dans d'autres caractéristiques ou symptômes liés à, par exemple, la ménopause ou le déficit de testostérone, qui ont été réappropriés du coup par les groupes trans pour pouvoir tout simplement transitionner dans les meilleures des situations possibles. En sachant que le nazisme a détruit le premier centre de recherche à ce sujet-là, qui était très important. Malgré tout, on remarque que d'un point de vue de la médecine, il y a aussi un autre enjeu qui se joue. Il y a un enjeu qui est principalement monétaire. C'est-à-dire que quand on transitionne, le budget pour transitionner, il est juste... Franchement, il faut choisir, c'est soit transitionner, soit s'acheter une maison ou s'acheter une voiture. Donc, ça vient précariser encore plus les vécus, surtout que quand on transitionne, du coup, peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans la santé mentale ou que ce soit dans la partie chirurgie, il faut prendre du temps pour soi et pour trouver du travail ou autre, c'est toujours très distendu. Autant distendu que, par exemple, les femmes qui tomberaient enceintes et qui chercheraient du travail ou qui se verraient rétrogradées dans le leur parce qu'elles décident d'être maman à ce moment-là, quoi. Donc, vraiment, il y a un truc qui est structurel. Ce qui concerne encore plus les enfants, c'est que déjà, en fait, ils n'ont pas beaucoup de droits. On dit qu'on protège les enfants, mais franchement, le système français, comme il est construit aujourd'hui, il ne protège pas les enfants. Il ne protège pas les enfants des agresseurs pédocriminels. Il ne protège pas les enfants au sein des foyers lors des questions d'inceste. Il ne protège pas les enfants qui sont abandonnés dans le cadre de l'hétérosexualité. C'est pas les LGBT qui font les enfants LGBT, c'est les personnes hétérosexuelles qui les font en plus grande majorité aujourd'hui. L'abandon qui se crée, ça, il n'y a pas de prise en charge correcte actuelle qui est mise en place. Et ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes queer ou trans, d'où le fait que l'on s'est organisé dans ce qu'on appelle cette fameuse communauté. Voilà, communautairement parlant, et c'est pour ça que du coup on est situé très à gauche, c'est parce qu'en fait on a ce sentiment de famille choisie, et que la famille choisie c'est un truc qui est très important, parce que ben, si on s'entraide pas entre nous, on n'y arrivera pas. Et c'est là où c'est difficile dans cette panique morale, parce qu'on représente que 0,3% de la population, et demain, comment se défendre face aux 99,7% qui risquent de nous haïr de plus en plus, vu comment l'extrême droite et les fascistes se préoccupent du sujet, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je suis là aujourd'hui.
Moi, si je peux me permettre une petite parenthèse, je suis parent concerné. Mon fils m'a autorisé à dire qu'il est un garçon trans adolescent, ou préadolescent, de 13 ans.
Félicitations.
Exactement. Et je pense que ce que je vois partout, les fameux parents, mais qui ne sont peut-être pas toujours des parents, des gens sur Internet qui disent « il faut protéger les enfants, c'est inadmissible ce qu'ils veulent faire aux enfants, ils veulent les mutiler », c'est qu'il y a plein de façons de vivre sa transidentité, qu'il y a plein de manières de... Il y a une évolution aussi. On passe pas directement à l'opération.
Exactement.
Ou aux opérations. Et je pense que ce que ça dit aussi, tu parles de famille choisie, mais je pense qu'il y a une responsabilité parentale d'aimer nos enfants comme ils sont. Et je pense que c'est une démission totale de notre société, mais même en tant que personne, que d'abandonner ces enfants qui existent.
Ben, on abandonne toujours les enfants. Ben, par exemple, on remarque que depuis le mandat de Macron et un peu avant, franchement, tout ce qui a un rapport avec la scolarité, c'est tout le temps remis en question, mais rien ne se passe. Avec l'arrivée de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, là, par exemple, on a vraiment une session raciste qui est en train de se passer et méprisante, en disant aux enfants qu'ils vont aller à l'école tous les jours et de 8h jusqu'à je ne sais quelle heure, ils vont rester à l'école parqués. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une forme d'autoritarisme.
Et puis, en priorité, s'ils viennent de certains quartiers.
Bah oui, ils visent les banlieues, ils visent les milieux minoritaires en premier et défavorisés pour pouvoir les parquer, en fait, pour mieux les maîtriser, en fait. Donc, c'est vraiment violent. Et en sachant qu'ils ont déjà fait les pires trucs et on leur dira rien du tout. Tout simplement. Mais effectivement, il y a un engagement de la part des parents. Il y a un engagement de la part des parents à faire des enfants pour ce qu'ils sont et pas faire des enfants pour ce qu'ils pourraient être selon leurs idées et leurs préjugés et comment eux, ils ont construit leur façon de se percevoir eux-mêmes dans une société qui est déjà très codée. Voilà. La session qui arrive, c'est que bah, peut-être que chez les jeunes, ne serait-ce que par exemple vers la découverte de leur propre sexualité, ils se rendent compte que bah, c'est pas grave d'être dans l'homosexualité, c'est pas grave d'être dans la bisexualité, c'est pas grave d'être dans la pansexualité, là où ailleurs avant ça pesait. Bien sûr, c'est toujours à double tranchant, parce que même quand ça concerne, par exemple, l'homosexualité, on se rend compte que les milieux bourgeois, ils sont toujours en train de dire « Oui, mais en fait, nous, on adore les homosexuels, on les accueille, machin et tout. » Sauf que quand ça les concerne directement, là, ça ne passe plus. Et ils vont se servir de ça pour pouvoir dénigrer de façon raciste d'autres milieux ou d'autres personnes minorisées ou pauvres, en disant « Ah, vous voyez, eux, ils acceptent pas depuis le début. » Mais c'est pas parce qu'ils acceptent pas depuis le début, c'est juste qu'en fait il y a l'apprentissage des constructions sociales qui fait que c'est pas parce que on dit que c'est ok que quand ça se passe dans son foyer, c'est pas OK, que ça veut dire qu'il y a un progressif. Non, c'est faux. Ça rentre toujours dans un cadre. L'homosexualité, c'est accepté quand ça fait partie des milieux bourgeois, quand il rentre dans le cadre de l'hétérosexualité. Il suffit de voir ce que dit Gabriel Attal. Oui, genre, c'est un regret pour lui d'être homosexuel.
Il a dit ça ?
Oui, c'est un regret. Enfin, c'est un regret pour lui d'être homosexuel à tel point qu'il veut, en quelque sorte, préserver le temple sacré de l'hétérosexualité en se rattrapant ailleurs. C'est pour ça qu'il est aussi réactionnaire, en fait. Donc, c'est des personnes qui sont elles-mêmes polytraumatiques, qui n'arrivent pas à se comprendre et qui vont polytraumatiser tout le reste de la population parce qu'ils ont un rapport de pouvoir et qu'ils peuvent l'utiliser, en fait.
Alors, moi, il y a un truc que je trouve... Alors, on parlait de ce fameux livre dont on ne veut pas parler et des personnes qui sont visibles dans les médias. Mais en fait, c'est un peu comme ce que tu disais sur les informations. Pour moi, elles sont visibles chez des gens qui sont plus vieux. Je le vois avec mon fils. Les réseaux sociaux ont lui apporté énormément en termes de visibilité de personnes concernées, en termes de discussion, parce que du coup, même de lui-même, il vient nous voir pour nous parler de ces problématiques-là. Et je pense qu'il y a un vrai clivage qui se fait générationnel entre cette espèce de violence qu'on voit un peu partout, de ces personnes qui sont extrêmement agressives et même insultantes, ordurières presque.
Elles sont insultantes et les propos qu'elles tiennent sur les plateaux, ce sont des propos qui sont transphobes.
Oui, qui est un délit.
Voilà, et il n'y a personne sur ces plateaux qui ne leur dit rien. Moi, c'est ça qui me scandalise.
Parce qu'ils sont d'accord.
Oui, mais c'est, pour moi, c'est des gens de cette génération qui sont d'accord.
Je pense que ces deux personnes TERF, elles font partie de notre génération, mais qu'elles ont des traumatismes qui font qu'aujourd'hui, leur fer de lance, c'est les personnes en parcours de transition. Voilà. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est juste se placer pour se sauver elles-mêmes. En vrai, elles n'en ont rien à faire de ce que c'est vraiment le féminisme. Elles n'en ont rien à faire que tout le monde vive dans un monde où tout le monde est libre. Tant qu'il y a encore des personnes qui ne vivent pas une forme de liberté, personne n'est vraiment libre. Donc du coup, elles, leur agenda, c'est juste de se mettre en avant. C'est tout ce qu'elles veulent.
C'est un peu les pick me girls du féminisme, avec des très gros guillemets autour de féminisme.
C'est des Thaïs Escuffon.
Qui n'est donc pas du tout féministe.
Qui n'est pas du tout féministe, qu'il revendique d'ailleurs.
C'est justement les soldats que recherchent, toutes ces figures féminines, Marine Le Pen, ainsi de suite, Thaïs Escuffon et elle, c'est le nouveau fer de lance de l'extrême droite avec, alors on appelle ça le fémé-nationalisme. Voilà.
Oui.
Donc les fémé-nationalismes, c'est le nouveau fer de lance de l'extrême droite pour pouvoir rallier la cause féministe à l'extrême droite. Donc, bien sûr, ça concerne une population qui est plutôt blanche, qui est plutôt bourgeoise, ainsi de suite, qui viennent gatekeeper leurs privilèges. Voilà. Et c'est ça dont il faut faire attention. Et c'est là où les groupes féministes doivent bosser. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de féministes sans les femmes racisées, sans les personnes qui sont considérées comme invalides, sans les personnes trans, et ainsi de suite. Peu importe les minorités auxquelles elles font partie. Le principe du féminisme, c'est de libérer les premiers concernés, c'est-à-dire la classe homme, de leur propre code dans lequel ils sont emprisonnés et où ils eux-mêmes galèrent à se reconnaître, en fait. Les masculistes, c'est une preuve certaine de leur propre mépris entre eux à ne pas atteindre une forme d'hétérosexualité qui est lisse et embellissante pour eux. S'ils sont faibles, ça veut dire qu'ils font partie d'un bord qui n'est pas assez patriarcal pour le reste. Donc, ils se posent des questions et c'est ça qui les fédère au masculisme, quelque part aussi. Et effectivement, tout ça fait structure et tout ça se connecte entre tous les sujets pour en arriver aux enfants trans aujourd'hui qui sont pris en fer de lance. Parce que cette panique morale, elle se crée autour de d'autres paniques qui sont le fait qu'il n'y a pas d'argent, le fait qu'il n'y a pas de travail, le fait que la santé, c'est en train de chuter en chute libre en France, le fait qu'on est conscient qu'en fait, il y a des climats politiques qui sont hardcore partout dans le monde et qu'il y a des guerres qui nous menacent en permanence. Du coup, les gens, ils ne savent plus où se positionner, ils ne savent plus où se mettre. Et donc, il y a un besoin de se sauvegarder, de gatekeeper ce qui est à gatekeeper sur le moment, c'est-à-dire eux-mêmes et les privilèges qu'ils ont sur le moment.
Alors, tu le rappelais à très juste titre, il n'y a pas de féminisme sans les femmes racisées, il n'y a pas de féminisme sans les femmes trans. Les femmes trans ont été très actives dans beaucoup de mouvements militants, notamment pour le droit à l'IVG dans la Constitution, dans tous les combats qu'il y a eu ces derniers temps. Et j'ai l'impression qu'il y a A contrario, très peu de féministes qui ont pris la parole, de féministes cisgenres, je précise, qui ont pris la parole sur la question du rapport des Républicains, sur la question du livre. Moi, personnellement, j'ai vu, il y a de très rares médias qui en ont parlé pour faire vraiment du travail de fake news et d'expliquer à quel point tous les arguments qui étaient avancés dedans étaient faux. Avec des sources, on ne sait pas d'où elles sortent, non, mais t'inquiète, frère.
Voilà.
C'est quelque chose que toi, tu as reproché sur Instagram. J'imagine que ça t'a valu beaucoup de critiques.
Alors, j'ai perdu des jobs. J'ai eu beaucoup de critiques. Je ne parle plus avec certaines personnes qui me disaient qu'elles étaient mes alliées. Et en fait, c'est là où on voit le vrai visage. Et puis, surtout, bah, les Républicains, ils ont très bien compris. Ils ont compris que si on donnait l'IVG à la classe femme cisgenre, bah, en fait, c'est comme si elles étaient protégées un peu de quelque chose. Sauf que l'article de loi sur l'IVG, il n'est pas complet. C'est-à-dire que demain, ils ont envie de revenir dessus, l'IVG, il saute, en fait. Donc, elles assimilent ça au fait qu'il y a eu une réussite et que du coup, elles ne vont pas s'engager dans de nouvelles luttes parce qu'elles ont peur que, du coup, ça soit mal perçu ou ainsi de suite. Et puis aussi, il y a le risque, c'est-à-dire que dès qu'un sujet est pointé du doigt et qu'il est trop présent, la Palestine, ce genre de choses, bah, du coup, les gens ont peur de parler ou de s'engager parce qu'il y a une espèce de répression derrière qui est mise en place.
Le fameux backlash.
Le fameux backlash. Et en fait, en ce moment, toutes les personnes trans, elles se prennent ce fameux backlash en pleine poire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, ça fait des semaines que sur les réseaux sociaux, on pestifère du coup au groupe féministe qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. La seule personne qui a eu de la visibilité, c'est qui ? C'est une personne cis alliée. Il n'y a aucune personne trans à ce jour en France qui a été invitée sur un plateau pour pouvoir débattre sur une question qui la concerne précisément, peu importe de quel bord elle vote, à aucun moment on a invité une personne concernée sur le sujet. C'est la même histoire que le port du voile. C'est la même histoire que le crop top. C'est-à-dire que les personnes qui sont concernées par les sujets, on ne leur donne pas la parole. Du coup, est-ce que c'est vraiment de l'information ?
Et puis, on a vu aussi des gens se faire désinviter de choses qui étaient acquises. Ça a été le cas, en l'occurrence, c'est Lexi, Agressively Trans, qui en a parlé. Des invitations dans des festivals pourtant féministes qui l'ont désinvité pour éviter les vagues.
Bah, c'est ça, c'est vraiment des festivals. Alors, elle n'a jamais dit quels étaient les festivals et les événements en question. Et franchement, grandeur d'âme, hein, parce que...
Moi, je les aurais balancés.
Voilà, on partage cet avis là-dessus. Mais elle a montré un mail où ils disent clairement, on a peur que ta présence ne nous nuise, que ça attire les fachos, que machin. Et c'est même pas formulé dans le sens qui pourrait être logique. On a peur que tu te fasses agresser parce qu'on t'aurait mise en avant. C'est non, on a peur pour notre événement parce que tu es une personne qui est clivante. Et ça, je trouve ça scandaleux.
Mais le féminisme, c'est pas clivant, c'est une forme de radicalité. Radicalité, c'est retourner à la base. C'est chercher l'étymologie de ce qui se passe. Quand on est dans une forme de radicalité, c'est parce qu'on vit forcément une forme d'injustice et qu'on veut chercher la vérité. Quand on la trouve, cette vérité, justement, il faut la soutenir. Il ne faut pas l'extropier et l'effacer comme si elle n'existait pas. Et c'est ce qui se passe avec Lexi, qui est pour moi la personne la plus informée et la plus à même de pouvoir nous renseigner sur les questions liées à la transitude, qui a et qui devrait avoir l'accès au plateau de télévision, qui devrait avoir l'accès au talk, qui devrait avoir accès à tous les festivals qui concernent le féminisme, sur toutes les questions structurelles qui ont un rapport avec plus ou moins les questions féministes. Mais ça n'est pas à son premier essai. Je me rappelle d'il y a 2 ans, la pauvre, elle avait fait un discours pour les femmes trans, elle s'était fait backlash pour le 8 mars. Donc voilà, et c'est pas une question qu'on veut prendre de la place, on veut effacer les corporalités féminines quand on est une personne transfemme. Non, c'est juste leur dire, ne nous oubliez pas, parce que si vous nous oubliez, à un moment donné, c'est nous qu'on va attaquer, mais les prochaines qu'on va attaquer, c'est vous. En sachant que nous, comme on n'a rien à perdre, parce qu'on n'a déjà rien, on n'a pas de privilèges, on n'a pas de quoi transitionner, on n'a pas de quoi avoir des vies stables, en fait, quand on n'a rien à perdre, on sort dans la rue. on sort dans la rue, on milite, on fréquente les milieux qui sont militants, on va à manifestations et compagnie, parce qu'en fait, quand tout ce que t'as à perdre, c'est la vie, tu t'en fous d'absolument tout. Donc, c'est pour ça que à Stonewall, on a jeté la première pierre, que quand il y avait des questions de Free Palestine et les questions sur l'IVG, on était devant. Pas parce que,
Oui, vous voulez pas vous attribuer nos combats, non. Vous voulez juste les soutenir et en fait, vous avez rien à perdre.
On les soutient surtout parce qu'on n'a rien. On n'a aucun privilège de vie. Et les gens, ils ont du mal à le saisir. Et surtout, moi, par exemple, être ici, ça me met sur des émotions qui sont mi-chaudes, mi-froides, parce que même dans ma propre communauté, je suis une personne qui est extrêmement privilégiée. Genre, j'ai pas besoin de faire du travail du sexe pour pouvoir m'en sortir dans la vie. J'ai eu toujours du soutien pour pouvoir transitionner. Quand j'ai fait des gagnottes, elles ont été remplies tout de suite. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on parle. Les gagnottes, quand ça concerne les personnes publiques trans, elles sont tout de suite remplies. Quand ça concerne les personnes qui n'ont pas de visibilité, elles sont jamais remplies. Elles restent vides, en fait. Tout ça, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, moi, je suis visible et que je viens parler, là où il y a d'autres personnes qui sont peut-être mille fois plus compétentes dans ma communauté et qui, elles, ont des arguments qui sont plus justes ou des formulations qui sont plus justes pour en parler. Et ça aussi, moi, je peux pas ne pas saisir l'occasion pour ne pas en parler. C'est obligé que j'en parle. Voilà. Donc, j'en parle pas parce que j'ai le choix. J'en parle parce que, justement, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je sais pas comment font certaines personnes pour se réveiller le matin et se dire qu'elles ont... Bah, qu'en fait, qu'il se passe rien. Genre, il se passe tellement rien dans leur vie qu'elles ont besoin de lutter pour rien du tout. Mais à partir du moment où elles sont dans ce confort de lutter contre rien du tout, en fait, leur vie, bah, c'est la vie de l'oppresseur. Parce que si tu luttes pour rien... Ben, si tu luttes pour rien, c'est que tu as beaucoup d'avantages de vie. Si le matin, tu te réveilles et tu es attaqué, tu es en première page de tous les médias de l'extrême droite, où on te dit « vous êtes le nouveau sujet auquel on va s'intéresser et on va vous faire perdre des libertés et on va vous faire perdre des droits à tel point que vous allez devenir des personnes qui sont complètement dans l'illégalité », mais en fait, j'espère que ces personnes-là qui ne luttent pour rien, elles se retrouveront jamais dans notre situation. La charge mentale que ça demande en permanence d'être confronté à ce sujet, alors que clairement, qu'est-ce que demandent les personnes trans? C'est juste à transitionner, à avoir la même vie que tout le monde. C'est terrible.
Tu le disais tout à l'heure très très justement, c'est qu'en fait, toutes ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se passer envers les personnes trans, c'est la première étape.
C'est la première étape.
De plein de choses, parce que là, on les a tous entendus, les discours d'Emmanuel Macron sur le réarmement démographique. Moi, personnellement, ça m'arrange parce que je suis dans une démarche de PMA et que du coup, je m'en sers comme argument à chaque fois que j'ai un rendez-vous chez le médecin. C'est devenu vraiment une running joke. Oui. Mais dans la même optique, là, on veut protéger les enfants de la transidentité. Alors que les enfants qui essayent de transitionner, il y en a beaucoup qui se suicident parce qu'ils ne sont
pas
écoutés. La prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera d'interdire les ligatures des trompes parce qu'il faut continuer à protéger les enfants et du coup, il faut les protéger avant même qu'ils soient nés, avant même qu'ils soient conçus.
Les contraceptifs,
l'avortement, parce que là, c'est la liberté de l'avortement qui est protégée par la Constitution, ce n'est pas le droit.
Exactement.
Et les mots ne sont pas anodins.
Ça veut dire que demain, vous allez pour pouvoir faire un avortement, ce n'est pas sûr qu'il vous soit assuré. Ça dépend sur qui vous allez tomber en face de vous.
Et vous pouvez tomber sur des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, moi, je sais qu'en ce moment, j'ai une amie qui est concernée, qui est en train de faire les démarches pour avorter. Elle est allée dans une clinique qui est spécialisée. Ils lui ont dit « Ah bah non, vous n'avez pas de lettre de votre médecin traitant.
Non,
prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et reprenez rendez-vous. » Sauf que comme elle habite dans un petit village, et ben entre-temps, en fait, il peut se passer plein de choses. Son médecin, il peut partir en vacances. On sait que c'est des déserts médicaux.
Trois mois, ça passe vite. Hein.
Trois mois,
et
ça passe vite.
Et puis son médecin peut être contre.
Son médecin peut être contre.
Voilà.
Enfin, dans la Constitution. Mais en attendant, si les gens veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ils trouveront toujours moyen de le faire.
Et ça, c'est ce qui se passe aussi pour les parcours de transition. On est dépsychiatrisé, mais on nous demande tout le temps des lettres de psychiatre pour pouvoir avoir accès à un traitement hormonal, qui est d'ailleurs pas très efficace parce que communautairement, on s'est organisé pour pouvoir trouver de meilleurs moyens d'avoir des résultats quand on transitionne, peu importe vers où on veut aller. et aussi tout simplement pour avoir accès à tout ce qui a un parcours médical ou chirurgical, c'est toujours un parcours du combattant. Pour l'administratif, ça reste un parcours du combattant. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de besoin d'avocat pour pouvoir aller au tribunal, c'est quand même un dossier qu'il faut monter. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a le temps d'attente. C'est pas sûr que quand on arrive au tribunal, on nous dise que c'est assuré, machin. Franchement, c'est une vraie, c'est un vrai parcours du combattant.
C'est une énorme charge mentale et administrative. Moi, je suis en plein dedans avec ma compagne en ce moment parce qu'elle a fait sa demande de changement de genre à l'état civil. Et effectivement, c'est un dossier, mais alors ils demandent des trucs qui sont absolument lunaires. À base de, oui, mettez des attestations de vos médecins, mettez des attestations de vos patrons, des lettres de vos amis, machin. Comment font les personnes qui sont isolées ?
Elles ne font pas. Elles ne font pas. Et enfin, moi, l'expérience, donc la loi qui nous a autorisé à pouvoir faire le changement à l'état civil, elle est passée en 2018. Moi, j'étais une des premières personnes trans à faire la démarche pour pouvoir faire ce changement d'état civil. J'avais quand même plus de 300 attestations de personnes différentes que j'ai mis plus d'un mois à réunir. Et les personnes, il fallait discuter avec chacune d'entre elles pour pouvoir les rassurer, parce que quand on reçoit le CERFA, il y a un truc qui est marqué où on dit « oui, si les informations que vous donnez sont fausses, vous vous risquez telle procédure, machin ». Ça, les gens, dès qu'ils voient ça, ils se chient dessus, quoi. Même s'ils vous voient transitionner devant leurs yeux et que ce qu'ils disent, c'est vrai, s'il y a marqué qu'il y a possiblement un truc répréhensible pénal sur eux, ils le font pas. Donc, c'est une vraie démarche à faire qui est d'une intensité horrible. Le moindre endroit où on peut grappiller est à montrer. Dans mon dossier à moi, il y avait des photos de avant ma transition et après ma transition. Il y avait toutes mes ordonnances de prise hormonale qui attestent bien que je suis castrée chimiquement. Franchement, c'était terrible. Tout ça pour arriver devant la juge qui m'a demandé si je transitionnais du genre masculin au féminin ou du genre féminin au masculin, parce qu'elle comprenait pas ma requête. Et pourtant, c'est elle qui décide. Enfin, c'est terrible. Du coup, je lui ai juste dit, mais vous avez quoi en face de vous ? Et elle me dit, vous ressemblez à une femme. Je fais, alors mon expression de genre est bien celle d'une femme. Donc oui, je vais vers le genre femme. Elle me dit, mais du coup, je comprends pas pourquoi votre requête, vous l'avez genrée au féminin. Et enfin, pour moi, ça semble logique, mais pour eux, le sujet, il est tellement... On n'est pas synchronisé entre ce que nous, on a vécu pour en arriver là et eux, comment ils gèrent les dossiers qui arrivent. Et eux, dans leur privilège, ils s'en foutent des transitions, ils ne savent pas comment ça se passe. Ils n'arrivent pas à analyser la violence de ce que ça procure, en fait.
Et c'est dingue de voir à quel point, en fait, ce sont des gens qui sont censés être informés, puisque ce sont eux qui sont en charge de ces dossiers. Et alors qu'en fait, pas du tout. Moi, là, j'ai eu le même cas, toujours dans le cadre de la PMA. Je suis désolée, j'ai l'impression de ramener la couverture
non,
à moi.
Non,
mais
c'est très bien.
Je fais une PMA avec une femme trans. J'ai spécifié ça à tous mes médecins. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais alors, ça veut dire quoi, une femme trans ? Est-ce que du coup, c'est une personne qui est née femme et qui devient un homme ? Est-ce que c'est une personne qui est née homme qui devient une femme ?
Mais c'est, même ça, dans ça, c'est quel est l'intérêt ?
Et c'est ça, j'étais là, mais vous êtes médecin spécialiste de la fertilité. Je ne dois pas être la première personne en couple avec une personne qui a fait une transition qui vient. Puis au pire, ouvrez le dossier médical. Dedans, il y a tous les, éléments qui sont là.
Ben c'est encore la preuve que c'est la preuve que les personnes trans sont une minorité, et par rapport aux chiffres que tu disais, les gens ne connaissent pas de personnes trans. Et quand tu connais pas une personne, et ben du coup tu t'intéresses pas à son parcours de vie, à comment ça se passe, et t'as des fausses croyances.
Voilà. C'est vrai que je voulais te poser une question par rapport à ça, toi Lucille. Toutes les deux, on évolue dans des milieux queer depuis très longtemps. Moi, je vais le dire en toute honnêteté, la première personne trans que j'ai rencontrée avec qui j'ai eu une vraie discussion, c'est toi.
Oh, wow.
Quand on s'est rencontrés pour un événement presse.
C'était un événement
presse. C'était avec Gaze.
Ah oui, c'était avec Gaze Magazine.
Voilà. Je connaissais l'existence des personnes trans. Je militais déjà pour leurs droits, mais c'était la première fois que je rencontrais vraiment et que je faisais connaissance avec une personne trans. Et c'était il y a 4 ans.
Oh, ça oui, c'était il n'y a pas si longtemps.
Donc voilà. Et pourtant, j'évolue dans les milieux queer depuis que j'ai 14 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui, donc voilà, c'est dire à quel point
Je pense
c'est
que
quelque chose qui est assez marginal encore.
Je pense que je me souviens de la première personne trans que j'ai rencontrée, et c'était effectivement pas il y a si longtemps, c'était Daisy Le Tourneur, qui fait...
Ma poupée.
qui fait un travail vraiment passionnant sur la déconstruction des masculinités. Mm-hmm.
Son bouquin
est formidable, on vous mettra les références.
Et du coup, c'est pareil, c'est très récent. Mais parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, des personnes trans. Nous, on en connaît, et on en connaît même plusieurs maintenant.
Bah oui.
Mais c'est extrêmement minoritaire.
Et on connaît surtout les personnes trans avec un parcours, qui ont eu la chance d'avoir un parcours universitaire. Donc, qui peuvent résumer les idées et les coucher sur le papier de façon universitaire pour qu'elles soient approchées par absolument toutes les personnes qui peuvent s'y intéresser. Donc, c'est vraiment une source importante, bien qu'elle ne concerne pas la généralité des personnes trans qui, vraiment, même elles, à certains moments, elles n'ont pas tout le vocabulaire qui les concerne. Elles sont juste dans un besoin. Le besoin, c'est juste d'avoir un parcours de transition. Peu importe les normes ou quoi que ce soit, pour montrer encore une fois qu'il n'y a pas une notion de choix derrière, en fait. Mais effectivement, Daisy Le Tourneur, Bob.
Alors du coup, on va pas reparler une énième fois du livre parce que clairement, on ne va pas leur faire de promo. Mm-hmm. On va pas reparler non plus de ce rapport qui est juste honteux. Moi, j'ai une question pour toi, Claude Emmanuel.
Oui.
En tant que média, parce que nous deux, on est toutes les deux journalistes, en tant que féministe, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour soutenir les personnes trans aujourd'hui?
Alors, il faut être... C'est un terme qui est sorti ce week-end sur les réseaux sociaux. Il faut être dur. Il faut rien laisser passer. Être allié, c'est pas simplement juste dans l'idée d'eux. Souvent, être allié, c'est-à-dire, oui, mais moi, je soutiens. D'accord, tu soutiens, mais tu fais quoi? Est-ce que tu vas en manif? Est-ce que tu corriges ton pote trou de balle qui fait des jokes transphobes ou qui corrige toutes les préjugés, les fausses croyances qu'il y a autour des transidentités? Il faut rétablir la vérité. Il faut donner la parole aux personnes concernées. Dans l'accessibilité de soutien, bien sûr, il peut être aussi financier si c'est possible, versé dans les gagnottes, versé dans les associations pour pouvoir toujours plus informer les masses. Protéger les enfants de cet infanticide qui est en train de se mettre en place et bien sûr de se soulever. Il faut se soulever, c'est-à-dire que si le 5 mai, cette manifestation, elle est en marche, il faut que toute la communauté queer, trans et toutes les féministes soient dehors. C'est important. Quelle autre manière on peut intervenir? C'est toujours d'être dans une forme de visibilité, mais de ne rien laisser passé. Dès qu'il y a de la transphobie, rappelez que la transphobie, c'est un délit qui est puni par le code pénal. Je vais vous dire les numéros du code pénal pour lequel c'est concerné. Merci Morgane Noam. Donc c'est l'article 225-1 et l'article R-625-7 du code pénal qui explique bien qu'à partir du moment où on discrimine une personne trans, c'est puni et c'est répréhensible par la loi.
Pareil, voilà. On vous mettra les liens vers les articles de loi en description du podcast. Moi, j'ai une passion pour les Gifrance. C'est fou ce qu'on peut trouver comme ressources là-dessus.
Exactement. En sachant que, tout de même, pour éviter de revenir sur les deux TERF, mais associativement, il y a quand même des plaintes qui ont été déposées et vraiment, il y a un parcours qui est en train de se faire pour pouvoir qu'elle soit punie par la loi pour avoir sorti ce genre de bouquin.
Oui, il y a une plainte qui a été déposée le 20 avril 2024 par SOS Homophobie notamment.
Exactement, merci SOS Homophobie, pour les deux d'ailleurs. Et surtout, il y a des analyses qui sortent sur le livre pour démonter chaque argument qu'elles sont en train d'utiliser. À savoir que le livre contre-argument de ce qu'elles ont produit, c'est le livre de Morgane Noam. Ceci n'est pas un livre sur le genre, qui clairement, le leur, elles ont mis entre 3 et 6 mois pour pouvoir réunir les informations et les publier. Morgane, il a mis 3 ans à l'écrire et chaque argument est sourcé.
Et pas voilà. Avec des sources, un lien vers une image, une page Tumblr ou un thread Twitter ou une page Reddit.
Exactement.
Et puis, mais du coup, je vous le conseille, je le conseille même à tout le monde, parce que c'est un livre qui est très accessible en plus de ça, même pour des gens qui ne lisent pas forcément des essais ou de la théorie sur le genre.
Ce qui est très intéressant dans le livre de Morgane Noam, c'est qu'avant de parler concrètement de sujets liés à la transidentité ou aux transitudes. C'est vraiment un livre qui parle de comment les choses sont construites socialement. Et lui, il vient vraiment d'une façon très douce et très accessible nous expliquer qu'on vit en fait dans une société de classe. Et donc, il vient démonter peu à peu les structures de classe qui font qu'aujourd'hui, on parle de ces questions d'identité.
Mais écoute, merci beaucoup Claude-Emmanuel d'être venu dans notre podcast pour rappeler tout ça et pour porter ce sujet qui vraiment mérite de l'attention et de l'attention de tout le monde.
Merci à vous et vraiment, je suis très reconnaissante qu'à chaque fois on me laisse la parole et j'espère que dans ce que j'ai pu dire, je ne blesse absolument personne de ma communauté. Faisons front, allons-y vraiment toutes ensemble, mettons de côté les mépris qu'on a pour les parcours de transition de chacun ou de chacune, ainsi de suite. Pensons à un bien commun qui est qu'on recherche nos libertés et nos droits et on veut juste vivre. Alors, merci beaucoup pour l'invitation.
Et si vous êtes une personne trans ou que vous avez des questions sur les transitions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous poser des questions. Nous, notre spécialité, c'est la recherche. Donc, si on peut faire d'autres épisodes du podcast qui peuvent vous apporter des réponses, on le fera toujours avec plaisir.
Je donne une dernière information, peut-être trois petites associations vers qui vous pouvez vous tourner si vous êtes concerné par ce sujet qui est donc du coup un parcours de transition, ce qu'on appelle les transidentités ou la transitude. Vous avez, si vous êtes une personne mineure, l'association Grandir Trans qui est accessible sur principalement Instagram. Si vous y avez accès, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez les joindre. Vous avez des associations parisiennes comme Out Trans ou Accept ST qui sont plutôt pour des personnes qui sont migrantes et trans, mais avec qui vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous cherchez.
On le mettra aussi en commentaire, comme on vous donnera toute la liste des livres dont on a parlé, dont le livre de Lexi aussi, qui est effectivement un très bon livre.
Effectivement, ce lexique, il est très important, et je pense que c'était vraiment le premier fer de lance de notre communauté, c'est vraiment mettre des définitions sur des termes qui étaient très flous jusqu'à maintenant. Alors, merci mille fois à toutes ces personnes trans qui font de l'archivage et qui créent des contenus universitaires et théoriques à nos sujets pour pouvoir informer les masses.
Bah merci encore d'être venu. On rappelle que Laetitia et Lucille présentent Le Sexe, c'est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours et enregistré au studio Waked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.
À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.